micro-ondes.
Une émission qui vous tient
à contre-courant
le samedi
de 13h à 14h.
On vous parle de sujets brûlants,
mais c'est pas du réchauffé.
Une émission qui s'attaque
au racisme,
aux frontières
et aux injustices sociales.
À l'intérieur,
pas de l'alu, que de la lutte.
En direct sur Radio Campus
90.8
FM ou en streaming sur campusgrenoble.org.
Et en podcast
sur le-tamis.info
ou sur le site de Radio Campus Grenoble.
Eh ben, bonjour à tous et bienvenue à l'écoute de l'émission Micro-ondes. Micro-ondes, c'est l'émission qui vous tient à contre-courant et qui vous retrouve tous les samedis de 13h à 14h sur Radio Campus Grenoble, le 90.8 FM. Ces émissions, du coup, vous pouvez les réécouter chaque samedi en direct sur la radio. Vous pouvez aussi les retrouver en podcast sur le site de la radio, campusgrenoble.org et le-tamis.info. La thématique de notre émission, eh ben, on a eu la chance d'avoir à Grenoble une quinzaine contre la répression en ce début de mois d'avril. En ce moment, on a un printemps d'ailleurs super chargé sur les luttes, c'est pas facile pour nous de faire des choix à qui on donne la parole, mais en tout cas, on a voilà, fait une belle rencontre à cette occasion et on voulait leur donner la parole et donner la parole à ce collectif. Il s'agit du collectif Salle 5 qui viennent nous parler de justice et plus précisément des comparutions immédiates. Mais peut-être sans plus attendre, je vais vous laisser la parole. Du coup, Inès, Ellie, Simon, bienvenue à vous.
Merci.
Merci.
Et de merci. Notre côté, donc il y a donc moi, Baptiste, qui poserai les questions et à la technique.
Jeanne, n'est-ce pas?
Et bah, en tout cas, merci beaucoup d'avoir répondu à cette invitation et d'être avec nous. Voilà, à micro-ondes pendant une heure. Tout d'abord, première question, on vous propose un peu de vous présenter, ce collectif. Voilà, concrètement, qu'est-ce que vous faites, comment ce collectif a été créé, etc. Inès, tu veux prendre la parole?
Ouais, je peux peut-être raconter deux, trois trucs. Alors du coup, nous, on est un collectif qui s'est créé il y a un peu plus de 3 ans de ça, donc vers 2019. À la base, notre idée, c'était de se retrouver autour de l'observation de comparution immédiate. L'idée, c'était d'aller au tribunal, d'assister à des audiences et de voir après qu'est-ce qu'on ferait avec ça. Mais du coup, avant tout, d'abord, nous, de comprendre comment fonctionne cette justice. Qu'est-ce qui s'y passe, c'est quoi un peu les rouages de cette procédure-là. Un peu sur la base qu'on connaissait la procédure de comparution immédiate à travers ce qu'on en connaît, à travers le militantisme et des personnes qui peuvent être interpellées au cours de manifestations ou quoi, et qui peuvent comparaître en comparution immédiate, mais qu'en fait le quotidien des comparutions immédiates c'est pas ça, c'est des personnes qui comparaissent tous les jours dans les grandes villes. À Grenoble, c'est pas tous les jours, mais c'est une justice très quotidienne et qui cible globalement des personnes de milieux populaires ou des personnes racisées. Du coup, on avait quand même ça comme idée à la base, que c'était une justice, en fait, comme le reste de la justice, quoi, qui est une justice de classe et une justice raciste, mais en version encore plus intense et un peu loupe, quoi, sur ces dimensions-là. Et du coup, on voulait aller observer et comprendre ce qui s'y passait. Et après, on avait à la base plusieurs idées, mais on ne savait pas encore exactement. On voulait potentiellement pouvoir informer sur ce qui se passe au tribunal et un peu raconter ce que nous on a observé décrypter comme j'ai dit un peu les rouages de cette procédure et c'était ça à peu près, hein.
Ellie, tu veux compléter?
Ouais, et aussi peut-être ajouter qu'on a un site. Donc c'est salle5grenoble.wordpress.com et on essaie de mettre à jour de temps en temps des comptes rendus d'audience pour justement faire sortir un peu ce qu'on voit aussi au tribunal. Et on a aussi un Twitter qui n'est pas toujours très actif, mais on essaie de temps en temps aussi de mettre des choses. C'est salle5gre. Et après, on essaie de faire du lien avec avec d'autres luttes aussi qui nous semblent importantes sur les violences policières ou pénitentiaires. Et d'ailleurs, il y a une manifestation le 29 mai où ça va être un peu partout en France et nous, on appelle plutôt à aller à Lyon. Et on commence aussi à faire du lien un peu avec un collectif anticarcéral qui est en train de se monter à Grenoble. Et voilà, et en notre collectif qui fait un peu ce qu'on fait, il y a la Cellette à Toulouse. Et pareil, on essaie d'avoir un lien, bah, notamment avec les réseaux sociaux. Voilà, on suit un peu ce que font aussi les autres collectifs.
Et ouais, du coup, juste pour rebondir, c'est ça, c'est donc à la base, on était juste sur un truc d'observation et de réfléchir à qu'est-ce qu'on pourrait faire avec tout ça. Et donc, comme l'a dit Ellie, après, ça a pris la forme de rédiger des comptes rendus d'audience pour pouvoir faire sortir du tribunal ce qui se passe au tribunal et visibiliser ce dont on parle pas trop. Et donc du coup on a le moyen du site internet et puis on a commencé à faire une revue, du coup on a fait un premier numéro en 2020 et un deuxième en 2021 qui s'appelle Salle 5 et voilà, et du coup dans la revue on publie bah, les comptes rendus d'audience qu'on écrit et puis d'autres réflexions qui du coup sont alimentées là par tout ça et qui sont autour de la justice, qui ne sont pas spécifiques forcément aux comparutions immédiates, mais qui parlent de tout le système de justice autour, quoi. Et de, ben ouais, de tous les trucs dégueux qui s'y passent et qu'est-ce qu'on a à faire comme observation, comme critique autour de ça.
Vous disiez du coup qu'il y avait un lien avec la Cellette, et ça je me posais cette question de dire justement, est-ce que c'est assez rare ce que vous faites, ou entre guillemets, mettons là à Grenoble, est-ce que d'autres personnes viennent observer ça, enfin, ou est-ce qu'on est sur justement quelque chose qui est invisibilisé, ou enfin, assez peu de personnes finalement font cet effort de se rendre dans les audiences, enfin, est-ce que... Ellie, ouais.
Moi, en fait, je connais plus individuellement des gens qui faisaient ça, d'aller au tribunal et suivre des affaires, parce que soit eux-mêmes ont été confrontés à la justice, soit par des amis à eux, quoi. Et du coup, en tant que collectif, en fait, moi, j'en connais pas beaucoup, mais j'imagine qu'il y en a dans d'autres villes.
Ouais, nous, quand on... Enfin, au début du collectif, là, c'était aussi inspiré de d'autres collectifs dans d'autres villes, justement, notamment à Montpellier. Il y avait un collectif qui faisait à peu près ce qu'on fait, quoi. Je crois qu'ils font pas de revue, mais qu'ils publient des comptes rendus d'audience aussi. Et on s'était inspiré aussi d'eux parce que eux, du coup, ils avaient mis en place une espèce de grille là de qu'est-ce qu'on prend en note quand on va au tribunal. Du coup, nous, ça avait été aussi un peu la base sur laquelle on s'était appuyé, quoi, pour aller au tribunal au début. Et après, il y a donc il y avait Montpellier où là c'était plutôt un collectif de militants. Après, il y a eu des groupes de la LDH, de la Ligue des droits de l'homme, qui a fait ce travail là. Dans différentes villes, notamment à Toulouse. Après, je ne veux pas dire de bêtises, donc je ne veux pas dire d'autres villes, mais il y a d'autres villes, je crois, Marseille aussi. Et eux, où c'était plus une démarche version LDH, c'était plus avec une grille qui était faite avec des sociologues, des chercheurs, et avec un truc plus systématique d'assister à toutes les audiences sur une année, sur un tribunal, mais du coup, qui ont donné lieu à plein d'observations aussi. Sur l'Observatoire de Toulouse, ils ont écrit un bouquin, quoi, ou un gros rapport sur ce qu'ils ont fait. Après, il y a aussi des camarades à Lyon qui ont fait ça. Qui assistent à des audiences et des comptes rendus qui sont publiés sur Rébellion. Donc ça existe en fait quand même dans plein de villes différentes.
Inès, tout à l'heure, du coup, tu disais un peu que la comparution immédiate était comme une espèce de caricature un peu de la justice, ou un effet où tout est un peu plus gros, tout est un peu plus exagéré. Bon, est-ce que vous pouvez, pour les auditeurs qui ne connaissent pas, justement, nous rappeler un peu qu'est-ce que c'est que cette procédure de la comparution immédiate et en quoi elle est différente de la procédure normale ?
Vas-y, Inès. L'idée de la comparution immédiate, c'est de juger très rapidement une personne sans qu'il y ait d'enquête approfondie sur le délit que la personne a commis. Donc en gros, comme son nom l'indique, hein, comparution immédiate, c'est l'idée de dire qu'une personne est interpellée parce qu'elle aurait commis un délit, elle est placée en garde à vue, et à l'issue de la garde à vue, on considère que tous les éléments sont réunis dans le dossier pour que l'affaire soit considérée comme en état d'être jugée. Donc ça veut dire qu'il ne va pas y avoir d'enquête supplémentaire, la personne passe de l'interpellation à la garde à vue au tribunal et est jugée immédiatement, du coup, sans supplément d'enquête. Et ça aboutit dans la plupart des cas, enfin on redira des chiffres plus précis après, mais à une incarcération. Du coup, ça fait vraiment la case interpellation, garde à vue, jugement, prison. Et du coup, la spécificité de la comparution immédiate, c'est que ça va très vite. Donc du coup, il y a encore moins d'éléments dans le dossier et encore moins du coup de potentielle défense. Et donc du coup, c'est pour ça qu'on parle d'une justice qui est très expéditive, quoi. Encore plus que des audiences correctionnelles qui sont pas en procédure de comparution immédiate. Ça fait encore moins de possibilités pour les prévenus de se défendre et du coup d'avoir un jugement. Je sais pas comment on pourrait dire ça, mais un jugement plus juste, si tant est qu'on peut imaginer ça dans le système de la justice française.
Simon, tu voulais compléter ?
C'est pour des affaires de vol, drogue, violence conjugale, il y a quoi d'autre ? Enfin, il y a les délits routiers. Enfin, il n'y a pas des grosses affaires comme des homicides, il n'y a pas les détournements de fonds publics, il n'y a pas... toutes ces choses-là, ce qui aide à ce que ça forme une justice raciste, de classe, et toute une série de choses que les seules personnes qui peuvent être arrêtées, jugées et enfermées dans un temps donné, elle est très spécifique.
Et aussi que c'est une mesure qui est censée être exceptionnelle, enfin, c'est une procédure qui est censée être pas utilisée tout le temps, et finalement ça devient quotidien, et que ça a été mis en place pour désengorger le système judiciaire aussi, quoi.
Et justement, tu as commencé à évoquer cette question des chiffres. Peut-être je reprends un peu la balle au vol quand tu dis que ça se généralise, etc. Est-ce que vous avez des informations sur le nombre de condamnations, le recours à la comparution immédiate, ce genre de choses ? Simon ?
Ouais, alors on peut... Peut-être qu'on a... des chiffres en tête chacun de notre côté. Moi, il y avait des chiffres que j'avais lus, du coup, c'était de l'administration pénitentiaire. Hein. C'est pas des trucs qui cherchaient bien loin, mais dans les prisonniers recensés, il y avait 74% des prisonniers qui purgeaient des peines de moins de 6 mois. Et que 4% sur l'ensemble des prisonniers. Donc en France, on est sur un truc comme 76 000, 80 000, je sais plus. Il y a 4% des peines qui sont de plus de 3 ans. Donc avec ces deux chiffres, on peut conclure qu'il y avait 96% des peines qui pourraient être potentiellement venir de la comparution immédiate, parce qu'elles sont de moins de 3 ans. Les comparutions immédiates, c'est jusqu'à 7 ans ou 5 ans. Je ne sais plus la dernière loi qui parle de ça. Et voilà, il y a quoi un autre chiffre ? Ah oui, il y a 140 000 ou 160 000 personnes qui sont suivies en milieu ouvert. Enfin, ça,
en milieu c'est ouvert, ça veut dire...
ça veut dire qu'il y a le SPIP qui les suivent.
Donc le SPIP, service pénitentiaire d'insertion, probation, c'est ça, un truc comme ça ?
Oui.
Ok.
Du coup, c'est des gens qui ont été condamnés aussi, quoi.
Et puis après, il y a un autre chiffre, là, plus directement sur les comparutions immédiates. C'est aux alentours et un peu plus de 70% des audiences de comparution immédiate qui débouchent sur une incarcération. Du coup, ça nous fait nous dire que le truc de la comparution immédiate, c'est que c'est vraiment une machine à incarcérer. Et que, comme on l'a dit, en plus, c'est une justice quotidienne avec vraiment énormément d'audiences qui se déroulent chaque jour quotidiennement, avec... on peut dire aussi un peu le chiffre de la durée moyenne d'une audience. Bon, on a des chiffres de l'Observatoire de Toulouse et nous, des chiffres qu'on avait en 2019, là, qu'on n'a pas réactualisé, mais c'est en gros autour de 35 minutes d'audience.
Pour donc, décider de peine de prison.
Ouais, pour quoi. Décider de peine. Donc avec plusieurs audiences qui se succèdent par jour et donc qui débouchent dans 70% des cas de l'incarcération. Du coup, on s'imagine bien qu'il y a énormément de personnes incarcérées qui le sont à l'issue d'une procédure de comparution immédiate parce que ça va très vite, tous les jours, et que ça débouche à de la prison ferme.
Et, ouais, vas-y.
T'as pas le chiffre dont tu parlais tout à l'heure sur les... t'as pas retrouvé sur le nombre de personnes qui sont en préventive en prison aussi, parce que c'est beaucoup de gens qui sont... passer en comparution immédiate et qui sont en attente de leur procès, entre
j'ai
autres.
J'ai pas retrouvé le chiffre, du coup, j'ai pas envie de dire de bêtises.
Ok. Préventif, du coup, juste en, parce que moi, c'est quelque chose que je comprends pas. Pour moi, justement, la comparution immédiate évite la préventive. C'est-à-dire que souvent, t'es mis en prison dans l'attente de ton procès, mais là, du coup, ils prononcent une peine tout de suite. Dans... Ou alors, enfin...
Ouais, non, là, c'est pas... C'était... C'était pour revenir plus, on en parlera peut-être plus tard, sur le dossier du numéro 2, là où on a abordé la justice des mineurs, et où du coup, pour le coup, dans le cadre de la justice des mineurs, il y a une proportion incroyable des mineurs incarcérés qui sont des mineurs en attente de jugement. Voilà, mais c'était un autre bout. D'autres chiffres par rapport à l'augmentation du nombre de délits, là que c'est, je trouve c'est intéressant d'en parler parce que la procédure de comparution immédiate elle s'inscrit et elle se développe dans un contexte où le discours autour de la sécurité il devient de plus en plus important sur la scène politique, dans les discours médiatiques, etc. Il y en a qui parlent là de tournant sécuritaire ou de trucs comme ça, mais bon, ça fait plusieurs décennies que la notion de sécurité ou d'insécurité, elle est au cœur des positionnements politiques et des débats médiatiques. Et du coup, ça t'accompagne dans les discours médiatiques de beaucoup de chiffres autour de l'augmentation de la violence, l'augmentation de l'insécurité. Et du coup, il y a un peu... J'ai l'impression une réflexion là à avoir autour de ça veut dire quoi ces chiffres-là. Et du coup, s'intéresser aux comparutions immédiates, ça nous permet de constater ça aussi parce que en fait, on se rend compte que les chiffres qui sont produits par la justice ou par l'État, ils sont en lien avec les lois sécuritaires qui passent et donc avec la qualification des délits. C'est-à-dire, c'est simple, si tu crées des nouveaux délits ou que tu criminalises des choses qui n'étaient pas avant, bah, tu vas simuler une augmentation de la violence ou une augmentation de l'insécurité, alors que c'est juste qu'en fait, tu avais des choses qui n'étaient pas avant criminalisées, qui le sont devenues avec les lois sécuritaires et avec la systématisation du recours à la comparution immédiate, l'accélération de la justice. Et donc du coup, là on avait des chiffres... Ouais, c'est issu d'un bouquin qui s'appelle « L'ombre du monde, une anthropologie de la condition carcérale ». C'est un bouquin de Didier Fassin qui évoque un peu tous ces trucs-là. Et dans ce bouquin, on peut lire que « Il est révélateur de comparer les petites affaires qui ont augmenté de 255% pour les stupéfiants et de 400% pour les délits routiers, tandis que les dossiers plus lourds, les abus de biens sociaux, par exemple, ont baissé de 29%. »
Et ouais,
voilà, ça donne un petit aperçu de comment est-ce qu'on joue avec les chiffres.
Et est-ce que justement vous avez en tête des exemples de délits qui ont été créés de toutes pièces, entre guillemets, enfin de choses qui avant ne l'étaient pas, ou bien des exemples? Ouais, vas-y Ellie.
De délits, je ne sais pas, mais en tout cas, sur la mesure, par exemple, du bracelet électronique, où c'est clairement nouveau et qu'en fait avant c'était des personnes qui jamais elles auraient été en prison pour ce genre de délit et que maintenant systématiquement on leur met un bracelet électronique en disant ça remplace la prison alors qu'avant c'était il n'y aurait pas eu du tout d'emprisonnement. Et après il y a la comparution immédiate à délit différé qui permet aussi d'enfermer plus de monde. Et parce que là, on va dire qu'en gros, la définition, elle est assez floue. Et c'est un peu une nouveauté 2019 qui dit que, en gros, on a quelques indices qui suffisent, mais qu'il manque des expertises pour pouvoir juger la personne. Du coup, on va l'enfermer plus longtemps en détention provisoire. Donc, encore une fois, ça permet d'enfermer plus et plus longtemps et dans un délai jusque 2 mois depuis la garde à vue. Et à chaque fois, c'est ça, en fait, on va créer des nouveaux délits et des nouvelles mesures technologiques ou quoi, qui vont permettre d'enfermer juste plus de gens, quoi.
Sur le truc de dire les arguments qui sont mis en avant pour justifier des procédures ou voilà, le bracelet électronique ou la comparution immédiate, à chaque fois, le discours, c'est de dire... On va, les prisons sont bondées en surpopulation, etc. Donc il faut qu'on trouve des solutions. Donc y a trop de monde en prison, donc on va mettre en place le bracelet électronique comme alternative à la prison. Et en fait, dans les faits, c'est pas une alternative à la prison, ça vient juste se rajouter au panel de peines répressives qui existent. Et de privation de liberté. Donc du coup, ça ne fait pas du tout cet effet-là. Et pour la comparution immédiate, c'est en lien avec du coup, le nombre de personnes qui sont en préventive. C'est l'argument de dire, si on juge plus vite, si on arrive à accélérer les procédures, du coup, il y aura moins de personnes incarcérées en préventive, en attente de jugement. Donc ça va être plus efficace. Donc ça va aussi désengorger les tribunaux, désengorger les prisons, etc. Et le résultat, c'est évidemment pas ça. C'est juste que ça permet d'incarcérer plus de personnes et de juger plus de personnes et pas du tout de désengorger ou je sais pas quoi. Et juste pour finir sur les exemples là, de délits, il y a beaucoup ce truc des délits routiers où pareil, là toujours dans ce bouquin de Didier Fassin, il raconte comment la multiplication des radars a fait cette augmentation là, des délits routiers et que du coup il explique comment les personnes qui peuvent pas se payer un nouveau permis de conduire ou qui peuvent pas se payer des stages de récupération de points se retrouvent à comparaître au tribunal ou à être incarcérées
pour conduite sans permis ou des choses comme ça.
Conduite sans permis,
ça fait penser à aussi sur la drogue, genre la détention de drogue est devenue un délit au bout d'un moment. Du coup, ça a rajouté pas mal de gens. Et ça concerne aussi tous les gens qui font le... quand tu gardes la drogue pour quelqu'un chez toi, quoi.
La nourrice. Je propose qu'on se fasse une petite pause musicale. Inès, t'as envie de présenter le morceau que t'avais choisi? Ou bien...
Oui. le morceau qu'on a choisi, c'est un morceau qui parle de crimes policiers et de violences policières. Alors moi, je parle pas très bien espagnol, alors j'ai pas compris toutes les paroles de la chanson, mais j'ai compris que ça dit que personne se suicide en prison. Et du coup, nous, ça nous fait écho un comité de justice et vérité pour Mohamed, du coup, qui est un comité qui est à Saint-Étienne et qui lutte pour que la justice soit faite sur la mort de Mohamed, qui est mort dans un commissariat et dont la version policière, c'est qu'il se serait suicidé dans sa cellule. Ça nous faisait écho à ça et il se trouve que dans la revue et dans ce qu'on fait, on essaye de faire du lien avec c'est quoi les violences policières aussi et les crimes policiers, parce que tout ça c'est en lien, donc voilà, ça nous parlait de passer ce morceau.
Bon, on s'écoute ça.
Nadie se suicida en una comisaría, yo abortaría por si se hace policía. Nadie se suicida en una comisaría, los cuerpos hablan, no flotan río arriba. Nadie se suicida en una comisaría, yo abortaría por si se hace policía. Nadie se suicida en una comisaría, donde no hay poder, hay vida. Me sacó el pasaporte, me llevó un cuarto aparte, preguntó qué hacía, dije que era cantante, me pidió que demuestre, quería que cante. Abrí grande la boca, mostrando los dientes, me exigió que respete, dijo calabozo, y en una libreta escribía mi nombre. Me dijo, usted parece prototipo de puta, sudamericanas, paradas en la ruta. Mientras tanto en mi casa, aquí está de disfraces, baila sentada, la muerte a la mesa, la tierra nos traga, no se desaparece. Nadie nace 13, 13 se hace. Que matan cuando nos matan con precintos.
nadie grite, que nadie venda para vivir vida, que no mire el hambre que se reparte, ahora más tarde y todos los días. Del otro lado de las orillas, la tele cuenta cómo es la movida, el vecino decidiendo que va la mejor, que vaya y que me mantenga por vos. Mendoza, La Plata o Constitución, más tecnología hacia el mundo mejor, más que te entre más miedo y control, patrulla tu vida para tu confort. Que sigo operando por las autopistas, el más mataguacho te tiene en la mira, mide tus costillas, te ponen cuclillas, como la ficción, en tu cara gatilla. Que caiga la lluvia sobre la casa, que esté más lejos, que se derrame esta peste, glifosato desde el techo, solamente encima de todas las villas. Te saluda el mundo del choque profundo.
Lacrimógena batalla, piedrazos a los cascos. Primero me da pena, después me da asco. Te llenamos la plaza, bajamos en Pasco. Limón y agua en contra de este fiasco.
Oh, qué placer ver a las fuerzas superiores retroceder, retroceder, avanzar siendo millones.
On vient de s'écouter du coup ACAB de Sarah Ebé et on est avec le collectif Salle 5 pour parler de justice. Voilà, on est presque en direct puisque comme il fait beau et comme c'était pas simple de croiser ces personnes, et ben on a décidé de se réunir la nuit en extérieur, ce qui peut expliquer quelques petits bruits de temps en temps derrière nous. Voilà, en tout cas merci encore d'avoir répondu à cette invitation malgré vos et nos agendas complexes. Et on était en train de parler des comparutions immédiates, j'avais envie de rebondir, de vous proposer, comme vous faites justement, cette observation, de nous raconter une ou deux affaires qui vous ont marqué, ou un ou deux exemples qui permettent un peu aux auditeurs de voir de quoi on parle finalement quand il y a une comparution immédiate. Est-ce que Élie, t'as envie d'en parler un peu?
Et déjà peut-être dire que, en fait, il y a un truc qui revient quand même souvent dans les comparutions immédiates et qui est assez marquant, c'est... qu'en fait, à chaque fois, donc les affaires, on a dit, durent autour de 30 minutes à une heure, et que, en fait, on a toujours une présentation partielle au début des affaires, et jusque quasiment toute l'audience, et sauf à la fin, où tout d'un coup, en fait, on a l'avocat qui parle, et là, on a l'impression d'apprendre des nouvelles choses sur l'affaire, et comme si, en fait, on découvrait tout, enfin, à la fin. Et du coup, par exemple, il y avait à un moment la présentation d'une affaire où les juges annonçaient tentative de meurtre sur des policiers. Du coup, ça paraissait vraiment un truc incroyable et très, très fort, quoi. Et en fait, au moment de la plaidoirie de l'avocat, on se rend compte que c'est deux mecs, en gros, qui ont eu peur parce qu'ils ont vu une voiture de la BAC et ils étaient dans un quartier où, en fait, les gens ont peur de la BAC. Et ils ont eu peur, du coup, ils se sont enfuis. Et en fait, plus tard, ils se sont fait pourchasser et du coup, ils étaient en voiture, donc... Apparemment, ils ont essayé de se retourner contre les voitures du keuf. Et plus tard, ils se sont fait taper. En sortant, ils se sont fait rattraper. Et voilà, et du coup, ils se sont fait taper par les flics. Et ça s'est vraiment retourné contre eux. Donc, ils ont dit, il y a des rapports qui disent qu'il y a des photos, il y a des traces, il y a des bleus. Et en fait, les avocats et les juges, ils retournent ça vraiment contre eux en disant, non, mais on ne peut pas parler de violence policière à tout bout de champ. Et ça, c'était assez choquant parce qu'il y avait vraiment tout, des expertises qui avaient été faites, il y avait des médecins qui avaient constaté ce qu'ils avaient eu, et en fait, c'est eux, encore une fois, qui ont pris, qui ont été jugés et qui ont pris de la prison, quoi, prison ferme. Voilà, et il y a une autre affaire aussi, où c'était... c'était un jeune de 19 ans qui était déjà en prison, qui purgeait une peine, et en fait, il a été mis au mitard, donc le mitard, c'est le quartier disciplinaire. Donc c'est la sanction qui est la plus présente dans les prisons. Et en fait, ça va isoler la personne. Et c'est là aussi où il y a un taux de suicide qui est 7 fois supérieur par rapport à une cellule de prison normale. Et donc, il a été mis au mitard au nouvel an. Et les surveillants l'ont fouillé, ils l'ont menotté, lui ont fait mal au poignet. Et donc il l'a enfermé dans cette toute petite pièce. Et il a donné un coup de pied dans la porte. Il était énervé parce que c'était le nouvel an, il voulait pas être au mitard. Et du coup, avec la porte, il a touché un surveillant. Et du coup, le surveillant a porté plainte. Et du coup, encore une fois, ça s'est retourné contre lui, comme violence. Et même le procureur a annoncé qu'il voulait retenir un fait de violence sur la porte. Il a dit ça comme ça. Et du coup,
il a porté plainte, j'imagine.
Voilà. Et du coup, il a pris une nouvelle peine de 4 mois ferme, en plus de la peine qu'il avait déjà. Et en fait, ça, c'est pareil, c'est un peu la... Enfin, c'est un peu le constat qu'on fait de façon générale, c'est que les gens en prison, en fait, ils reprennent des nouvelles peines tout le temps. Donc, pareil, c'est l'accumulation des peines en permanence. Voilà.
Est-ce que, en termes d'analyse, est-ce que justement on peut, s'opposer à cette justice et comment on peut la contrer? Est-ce que vous avez des conseils plus ou moins à donner aux personnes qui passent dans ces comparutions immédiates? Voilà, est-ce qu'on peut les refuser? Qu'est-ce que vous pourriez dire par rapport à ça?
Du coup, on ne peut pas refuser une comparution immédiate. Et par contre, on peut demander un délai. Et en fait, un délai, c'est de droit. Donc en fait, les juges n'ont pas le droit de refuser un délai. Du coup, c'est un délai qui va aller de 2 à 6 semaines maximum. Mais la plupart du temps, en fait, les gens, enfin, ce qu'on voit aussi en comparution immédiate, c'est que les gens, ils veulent être jugés tout de suite, parce qu'il y a un peu une image de, on va prouver notre bonne foi, on veut sortir plus vite, et du coup, il y a vraiment cette envie de dire, non, je vais être avec vous et je vais vous répondre assez rapidement. Et après sur la demande de délai, en fait, par exemple, il y a des différences entre dans les milieux militants ou dans les manifs où on va souvent dire aux gens de demander un délai. Mais en fait, ça va dépendre quand même assez du contexte et de la personne qui est arrêtée. Du coup, on peut pas non plus... Enfin, ce serait pas forcément un conseil qu'on pourrait appliquer à tout le monde, quoi.
Et moi, pour rebondir là-dessus, j'ai l'impression qu'il y a... Enfin, dans les raisons pour lesquelles les gens, globalement, demandent pas de délai, il y a ce que tu disais, Ellie, et puis il y a aussi le fait que... Et eh ben, les gens se font peu d'illusions aussi sur leur possibilité d'attendre le délai en étant libre. Parce que ce qui se passe, c'est que si tu demandes un délai, tu demandes un délai donc, au début de l'audience. Et donc, du coup, tu vas quand même avoir une audience qui va avoir lieu, qui, du coup, n'est pas censée statuer sur le fond de l'affaire, mais sur est-ce que, oui ou non, tu peux ressortir libre du tribunal en attendant ton procès de comparution immédiate. Et donc là, les juges et le procureur les juges vont décider si tu vas attendre ton procès en tôle ou si tu ressors libre. Et ce qui se passe, c'est que si tu as déjà un casier judiciaire, s'ils estiment qu'il y a un risque de récidive ou que tu te barres, ou si tu n'as pas de ce qu'on appelle de garantie de représentation, tu vas attendre ton procès en prison. Et donc il y a ce truc de dire dans tous les cas, et puis que tu as de grandes chances qu'à l'issue de ton procès, dans tous les cas, tu finisses en prison. Donc du coup, ça fait un truc un peu fataliste là, de se dire dans tous les cas, ce qui t'attend à la sortie de la comparution immédiate, c'est la prison, du coup, maintenant ou plus tard. Et deuxième truc aussi sur... sur les trucs de conseils, pour nous, il y avait aussi ce truc de, avec ce collectif, c'est sûr qu'on ne fait pas la même chose que des collectifs anti-REP, par exemple, parce qu'on considère que nous, là, on était aussi là pour comprendre ce qui se passe et apprendre ce qui se passe, parce que c'est des bouts de vie qu'on ne connaît pas aussi, de parcours de vie judiciarisés de A à Z, et où en fait, les personnes prévenues... elles ont eu affaire à la répression, au contrôle social et à la justice depuis parfois très longtemps. Et que du coup, qu'on n'est pas en posture, nous, forcément, de donner des conseils, mais plutôt de rendre visible ce qui se passe et rendre visible ces bouts de vie-là judiciarisés et qui se prennent de la répression super violente, quoi.
Ouais, ce que ça montre aussi, j'ai l'impression, dans vos propos, là, c'est qu'on n'est pas du tout avec une... Face à une justice qui est égale pour tout le monde, quoi. C'est-à-dire que, en fonction de son histoire, de son statut, de son quartier, enfin, je sais pas. J'ai l'impression aussi que dans les propos que vous tenez, il y a cette idée un peu d'une justice qui est raciste et qui est classiste. Est-ce que vous avez envie un peu de développer pourquoi vous le... Enfin, voilà, si vous appuyez sur des chiffres ou s'il y a des choses, voilà, des ressentis en tout cas, dans les comparaisons immédiates, qu'est-ce que vous ressentez ? Vas-y.
Peut-être moi, c'est un exemple plutôt d'un truc concret. Une fois, j'avais assisté à une procédure qui n'était pas une comparaison immédiate, mais une comparaison du coup classique. Et c'était... du coup, c'est assez rare. Du coup, c'était un mec blanc qui était jeune, qui était ingénieur. Et pour le coup, déjà, il n'avait pas la même procédure. Donc déjà, je trouve que ça signifie quelque chose. Et en plus, c'était une affaire assez glauque. C'était du harcèlement sur son ex-copine pendant des années, avec vraiment des détails un peu... Enfin, il y avait des trucs de... Il envoyait des colis ensanglantés, avec des menaces de mort, du chantage au suicide. Enfin, c'était assez violent. Et du coup, lui, il avait le droit à une comparution classique. Il avait la défense d'un avocat qui était bien préparé. Il avait le ton mielleux des juges. Et on l'a vraiment senti, parce que juste avant, c'était une comparution immédiate. Et on a senti un peu ce changement de façon de parler. Et aussi le fait qu'il était bourgeois et qu'il avait un travail, qu'il était ingénieur, et ben ça fait qu'il n'a pas eu de prison ferme. Voilà, il a eu direct un aménagement de peine. Et juste avant, on a eu un mec racisé qui, lui, s'est pris 4 mois ferme pour un vol de sandwich. Du coup, ça faisait vraiment le contraste entre ces deux types de justice, quoi.
Et moi, je pense qu'il y a au moins 3 trucs là, qu'on peut mettre en avant sur ce truc de justice de classe et justice raciste. Il y a déjà le premier truc, comme on l'a dit, les comparutions immédiates, c'est à l'issue d'une garde à vue, donc d'une interpellation, que du coup ça donne déjà un premier critère en fait sur qui va comparaître en comparution immédiate, puisque c'est déjà des gens qui se font interpeller dans la rue ou sur les... Enfin, bon, ils disent sur les faits, mais de fait, en fait, qui a le plus de chances d'être interpellé et placé en garde à vue ? Ben, on sait très bien qui, quoi. C'est pas un cas de sup blanc en costard qui a le plus de chances de se faire interpeller dans la rue. Ensuite, la deuxième chose, c'est comme on le disait, cette histoire de garantie de représentation. Donc, tu n'as pas le droit de refuser, mais tu peux demander un délai. Mais si tu demandes un délai, tu as de fortes chances de quand même passer des semaines en tôle. Parce que les garanties de représentation, c'est en gros ton statut social, quoi. Est-ce que tu as un logement ? Est-ce que tu as un travail ? Est-ce que tu as déjà eu affaire à la justice avant ? Est-ce que tu as une formation ? Est-ce que tu as des diplômes ? Donc tout ça, ce sont des caractéristiques de ta classe sociale, de ta catégorie sociale. Et qu'en fait, clairement, ça veut dire ça. Ça veut dire si tu n'as pas ça, tu vas aller en tôle directement. C'est un deuxième truc. Et le troisième truc, ça rejoint ce que tu disais, Ellie, c'est quoi les délits en fait, qui sont jugés en comparution immédiate ? En fait, tu as plein de délits qui sont des petits délits de vol, de trafic de stupes ou de détention de stupes, et où en fait c'est pareil, c'est dans les catégories de délits qui sont jugés, ça vise déjà une catégorie sociale ou une catégorie de personnes, quoi.
Et... Je me posais la question, au-delà du coup du côté systémique, on va dire, du racisme, est-ce que vous ressentez aussi ça dans l'attitude des juges ? Est-ce qu'il y a des fois des propos racistes qui sont entendus, etc. ? Enfin voilà, qui viennent révéler ça ou, un moment, on parlait avant l'émission notamment, voilà, d'un enregistrement plus ou moins pirate, c'est-à-dire qui avait été passé avec l'accord des juges, et les juges se rendaient même plus compte en fait du côté scandaleux de leurs propos. Enfin, est-ce que vous avez également entendu des choses comme ça où la justice se lâche, on va dire, et se rend même plus compte de son... Sans forcément aller dans des exemples concrets, mais voilà, je me posais cette question.
Y a déjà le fait qu'il leur coupe tout le temps la parole. Et souvent aussi, ils disent, mais vous êtes sûr, vous comprenez bien là, vous comprenez bien le français. Enfin, ça, c'est des trucs qui reviennent aussi souvent. Et après...
Ouais, moi j'ai l'impression qu'il y a vraiment ce truc autour de la langue là, qui rejoint vraiment ce truc de racisme, où parfois du coup la présence d'un interprète est requise parce que le français n'est pas la langue maternelle et qu'en plus le jargon de la justice, on ne comprend rien, enfin, même quand c'est ta langue maternelle. Et que ça arrive hyper souvent que les juges commencent l'audience en demandant à la personne prévenue « Vous parlez un peu français ?» Et la personne prévenue dit « oui, un peu. » Et donc la juge dit, parce que c'est souvent une juge, mais bon, dit « vous traduisez que s'il y a besoin. » Ce qui en soi vient complètement niquer tout le truc, parce que du coup l'interprète est censé déterminer à quel moment il y a besoin ou non, ou la personne est censée dire à quel moment il y a besoin, mais qu'en fait du coup ça fait que on s'imagine que la personne prévenue, elle est pas en mesure de se défendre, elle est pas en mesure de répondre, elle est même pas en mesure de comprendre ce que les juges sont en train de lui dire, quoi.
Et est-ce que vous savez s'il y a des possibilités de recours? Vous avez déjà entendu parler de gens qui justement s'attaque à des magistrats entre guillemets ou au caractère raciste d'un jugement ou ce genre de choses, vous savez si...
Du coup par rapport à cette question, on n'avait pas d'exemple, on a regardé sur internet et t'as un ou deux articles, et sinon plutôt c'est assez compliqué parce que ça peut pas se faire durant la procédure. Ça veut dire que quand t'es en procès, en comparution immédiate, que t'as 70% de chances de te faire enfermer, t'as pas le droit de te faire durant la procédure, et du coup tu pourras le faire quand tu sortiras de prison, et qu'il faut que ça ait lieu moins d'un an après les faits, et après il y a tous les frais de justice qui en découleraient, et après on voit réagir la justice différentes fois dans les médias. Par rapport à des meurtres policiers qui sont parfois avec des comités de justice et vérité, et où les flics ou la justice va attaquer les proches ou faire du harcèlement en réponse à une plainte, et du coup voilà, il y a quand même pas mal de un bon cadre avant d'arriver à ce point-là, mais on avait vu des trucs.
On est face à un système. C'est théoriquement possible, mais c'est très difficile, quoi.
Voilà, je pense que le cadre de la justice, c'est de rendre tout possible, de dire que c'est possible pour se garder un garde-fou, mais que c'est pas forcément de le rendre possible. C'est de le rendre imaginable, je sais pas, c'est quoi la phrase.
Il y a un cadre légal qui fait que ça serait possible de le faire, mais concrètement...
Ouais, c'est ce qu'on voit d'ailleurs en effet pour les comités vérité justice. Enfin, c'est que même pour des crimes policiers, c'est très très difficile, voire impossible d'obtenir justice. Donc en effet, j'imagine que un jugement à caractère raciste va mettre encore plus de temps. Moi je me posais aussi du coup cette question de. Ça fait déjà quelques temps que vous observez la justice et puis aussi peut-être que vous analysez un peu ces évolutions. Est-ce que. Dans quelle direction ça avance aujourd'hui? Enfin, j'ai l'impression de l'extérieur en tout cas que on a de plus en plus de délits, de plus en plus de peines de prison qui sont prononcées, etc. Mais je sais pas, au niveau des lois, comment ça avance? Est-ce que vous pourriez évoquer un peu ça en termes de réforme de justice ou ce genre de choses?
On peut dire Simon. Que je vais. Vous me compléterez, mais on peut dire que ça avance, ça court. Et je sais pas, si on regarde sur les 20 dernières années, en fait, ça évolue très vite et par gros blocs, et dans le contexte sécuritaire où c'est ce qui fait les discours politiques, quoi, une grosse partie des discours politiques. Et du coup, il y a eu des gros packs de lois qui sont arrivés entre les menaces terroristes, la pandémie et les révoltes dans les quartiers suite à des morts le plus souvent en fait. Quand il y a des gens qui sont tués, hop, les gens descendent dans la rue et là on dit « Ah, les gens descendent dans la rue, il faut vraiment empêcher ça ». Et après, il y a beaucoup de lois aussi qui arrivent avec des faits divers. Il y a 6 mois, c'était quoi? C'était les jeunes en moto, tout ça. Du coup, il y a des nouvelles lois qui arrivent comme ça, où on parle d'un fait divers. Il y a quoi d'autre? Vous pensez à quoi? Il y a la technologie aussi qui fait évoluer la justice. En comparution immédiate, par exemple, aujourd'hui, il y a la visioconférence qui est utilisée pour la comparution immédiate, mais aussi pour juger les gens qui sont en prison, suite à, comme l'exemple qui était donné tout à l'heure, pour
Au Mitard.
Au Mitard. Et du coup, il y a... Voilà, je pense que ça c'est... Et que ça... Ça s'arrête pas là, quoi. Il y a... Ça, le contexte s'agrandit tout le temps et il y a 15 000 places de prison qui doivent être construites dans les 4 prochaines années, je crois. Je sais plus c'est quoi. Il y a... C'est... 5 ans. Oh là là.
Le nombre de places de prison ne fait qu'augmenter.
Voilà, il y a 15 000 places de prison. Il y a 10 000 places de prison qui sont construites à peu près tous les 10 ans en France, de toute manière. Et après, c'est aussi les gens qui sont enfermés enfermés en liberté, qui augmentent de manière exponentielle, plutôt.
Du coup, bracelet électronique, sursis avec un suivi speed.
Et juste aussi, ce qui est rigolo, c'est qu'à chaque fois, on entend toujours, même là encore maintenant, que la justice, elle est trop laxiste. Enfin, même sous Macron, c'est encore ce qui lui est reproché. Et alors que, comme on voit, en fait, il y a de plus en plus de peines et de gens enfermés. Du coup, c'est complètement contradictoire, quoi.
Et oui, est-ce qu'on, enfin, en tout cas, nous, ce qu'on en a, ce qu'on comprend un peu de ce qui se passe là, c'est que la procédure de comparution immédiate, tout comme d'autres outils, là, on a parlé tout à l'heure des nouveaux outils, comparution immédiate à délai différé, mais il y a aussi d'autres types d'outils de répression. On va peut-être pas les détailler là, mais tout ça, là, ça s'inscrit dans un truc qui s'appelle le traitement en temps réel de la justice, qui est du coup tout un mouvement là au sein de la justice pour soi-disant rendre plus efficace et accélérer la justice. Et en gros, ce qu'on comprend de cette tendance là, c'est que ça donne toujours plus de pouvoir à l'exécutif, en tout cas aux représentants de l'État dans la justice, c'est-à-dire ceux qui appliquent la politique du gouvernement, donc la police en amont, qui est celle qui interpelle et qui constitue des soi-disant dossiers d'enquête, et le procureur et les substituts du procureur qui décident que l'affaire est en état d'être jugée et qui décident du coup de quel type de procédure ils vont appliquer pour tel type d'affaire. Et donc du coup, ça va donner toujours plus de pouvoir à la police et au procureur, donc à l'exécutif, et moins de pouvoir au judiciaire, donc au juge, etc. Après, avec toute la critique qu'on peut faire du système judiciaire, quoi qu'il en soit, l'idée quand même à la base, c'était qu'il y ait un équilibre entre les deux, et donc qu'il y ait une réquisition du côté du procureur de l'État, etc., et après un jugement. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'on va réduire toujours plus la part de jugement et donc avoir des choses qui sont de plus en plus automatisées ou arbitraires. Bon, la justice, c'est quand même très souvent arbitraire, mais du coup, qui vont se passer de plus en plus de l'étape de l'audience, de l'étape du procès et de l'étape du jugement.
Et aujourd'hui, d'ailleurs, c'était une question... Bon, je me posais la question un peu, déjà en l'état actuel des choses, est-ce que les juges écoutent et requièrent la même chose que le procureur, ou bien est-ce qu'ils ont une indépendance par rapport à ça ? Enfin, comment vous observez les choses ?
Bah oui, dans la majorité des cas, le jugement qui tombe, il est identique à la réquisition du procureur. Je sais plus c'est quoi les chiffres qu'on avait, mais... On n'aurait qu'à dire que c'est dans l'extrême majorité des cas, ou bien c'est vraiment une toute petite différence quoi, dans le jugement. Et parce que de fait, dans tous les cas, il n'y a pas de défense quasiment, parce que les avocats ils ont une matinée pour préparer une défense. C'est des avocats commis d'office qui préparent une défense hyper rapidement. Et il n'y a pas d'enquête et il n'y a rien dans le dossier. Donc dans tous les cas... Les juges se basent, sans vouloir leur prêter des superbes intentions, mais les juges se basent sur ce qu'ils ont aussi. Et dans l'écrasante majorité des cas, les jugements, les condamnations sont identiques aux réquisitions du procureur.
Mmh. Et même quand il y a des défenses qui paraissent plutôt bien, moi j'ai déjà vu aussi, il y avait notamment une avocate qui, je trouve, s'en prenait un peu au ministère de la Justice en disant « en fait c'est pas normal » et tout ça, et en fait, je la trouvais plutôt assez virulente dans ce qu'elle disait, et c'était plutôt bien. Je me suis dit, ah, bah, ils vont peut-être l'écouter. Et non, pas du tout. En fait, ça n'a rien changé. Voilà, donc c'était un peu le constat que, de base, en fait, il y a déjà un truc de complicité entre les juges et le procureur.
Simon.
Ça me fait penser que, aussi, lors de la. Des. Lorsque la police. Les flics passent les affaires au procureur. Le procureur va demander au juge s'il est d'accord pour prendre autant d'affaires et tout ça. Enfin, il y a déjà un fonctionnement où ils sont genre ah ouais, on peut prendre 15 personnes demain, ok, une autre personne là, ah, c'est pourquoi, c'est pour ça. Il y a une négociation entre la police, le procureur et le juge pour savoir les affaires qui pourront passer d'une journée à l'autre.
Eh ben, je sais pas sur ce truc-là en particulier, mais c'est sûr qu'ils font leur tambouille, tous ensemble, quoi. Enfin, moi, je me souviens de une audience à laquelle j'ai assisté où c'était un jugement, c'était pas en comparution immédiate, mais c'était une audience correctionnelle où la personne prévenue était pas présente et c'était en toute fin d'audience. Et il n'y avait plus que moi dans la salle, il n'y avait plus aucun public autre ou quoi, c'était la fin de l'audience. Et moi j'étais un peu hallucinée quoi, parce que du coup ils sont passés en mode dans leur salon quoi. Donc, du coup t'avais la procureure, enfin la substitut du procureur là, qui tchatchait avec les juges, qui disait bon bah voilà, lui ouais non bon qu'est-ce qu'il nous a fait là, bon bah j'aurais qu'à faire ça comme réquisition. Et là les juges qui disaient ah bon, vous allez requérir que ça, bah quand même, vous mettez pas une petite amende ou un truc? Ah ouais, une amende, ouais allez, bon ouais je sais pas, oui bah oui oui, vous avez raison, je vais aussi, enfin tu vois, où ils se, en fait ils étaient en discussion,
c'est la récré quoi,
c'est la récré, mais tu vois qu'en fait ils font leur tambouille entre eux puis que ça n'use pas de sens quoi.
Oui, c'est pas du tout une partie, quoi. Enfin, entre guillemets.
Bah, c'est vrai que je trouve que c'est quelque chose qui est assez, enfin, qui est assez frappant quand on lit les extraits que vous mettez dans les comparutions immédiates. C'est que ça donne vraiment l'impression que la personne qui est censée être jugée avec un côté impartial, qu'on imaginerait de la justice, elle a en face d'elle un procureur qui est contre, qui est à charge, parfois un avocat du parti adverse qui est aussi contre elle, le juge qu'on sent quand même dans les extraits assez hautain, méprisant et qui a quand même plutôt souvent un point de vue où il pense que la personne en face est juste en train de lui mentir et de se foutre de sa gueule. Enfin, et un avocat qui peut avoir une défense plus ou moins solide parce que commis d'office avec assez peu de temps de préparation. Et enfin, je trouve que c'est vraiment flagrant quoi, quand on lit les extraits, de se dire mais en fait, cette personne ne peut pas s'en sortir. Quoi. Dans tous les cas, le jeu est écrit à l'avance. Elle a 3-4 personnes qui sont contre elle dès le départ dans une justice qui est supposée être impartiale. Quoi.
Et peut-être pour terminer un peu sur une note un peu plus positive, est-ce que justement vous avez des outils, enfin voilà, comment est-ce que par exemple on peut vous aider à témoigner là-dessus, comment est-ce qu'on peut s'organiser un peu plus globalement contre un système judiciaire un peu à la dérive quoi, en tout cas, ou voilà, est-ce que vous avez des informations là-dessus à donner aux auditeurs?
Bah, vas-y Ellie. En tout cas, bon, je sais pas si c'est positif, mais en tout cas il y a quelque chose, c'est que nous on croit pas du tout à ce système judiciaire, même sans parler des comparutions immédiates, on dit juste que c'est le reflet de la justice, mais du coup on croit pas non plus au reste des procédures quoi, donc ni au système pénal carcéral. Et là-dessus, après peut-être je vais pas développer, mais il y a déjà des gens en fait qui réfléchissent un peu à des, justement comment on pourrait penser l'abolition de la police. Il y a le collectif Matsuda qui a écrit un livre là-dessus, Abolir la police, qui parle des révoltes après la mort de George Floyd, qui est un noir américain tué par la police, et le mouvement Black Lives Matter. Du coup, il y a aussi des propositions concrètes de dire comment on démantèle la police aujourd'hui, comment on s'y prend, comment on arrête de leur donner de l'argent, etc. Après, il y a aussi le fait d'essayer de développer plutôt des communautés où on serait assez fort pour s'entraider en se passant toujours de la police. Après, il y a aussi des gens qui vont plutôt réfléchir à l'abolition pénale, comme Gwenola Ricordo, et pour dire en fait qu'en fait le système pénal il n'aide pas du tout les victimes aujourd'hui. Elle prend aussi le parti de parler des femmes victimes de violences conjugales et de dire qu'en premier, il faut d'abord penser aux besoins de la victime. Et elle a écrit là, il n'y a pas longtemps, un truc sur l'abolitionnisme pénal avec crime et peine, son livre, où elle parle de 3 criminologues qui ont réfléchi déjà à ça dans les années 70-80.
Et Gwenola Ricordo d'ailleurs, qui était avec micro-ondes sur notre dernière émission, donc ouais. N'hésitez pas à les réécouter en podcast. Voilà.
Voilà, et après il y a quelques tentatives aussi d'essayer de se dire on peut quand même essayer des choses dans ce système défaillant, comme tout ce qui est justice transformative par exemple. Du coup, en se basant sur plus des idées d'éducation, de transformation des personnes, avec beaucoup d'écoute, de dialogue, etc. Et ça, je crois que c'est beaucoup au Canada qu'on trouve ça. mais ça prend aussi beaucoup de temps, d'énergie, et en plus, enfin, ça peut pas vraiment fonctionner au sein d'un système qui lui-même ne marche pas. Du coup, bon, c'est pas une note très positive, finalement.
Non, mais c'est intéressant de voir aussi qu'il y a des pistes concrètes qui sont avancées par des collectifs ou des chercheurs, chercheuses.
Ouais, et aussi, oui, je voulais juste rajouter que, ben, finalement, on peut aussi se rendre compte qu'on est dépendant d'un système qui est absurde, qui enferme les gens pour les punir, et en même temps qui a pour but de transformer les gens, de les normaliser, et en fait c'est un paradoxe qu'on ne sait pas comment résoudre aujourd'hui. Quoi.
Ouais, et après, on pourrait quand même aussi dire qu'on n'aurait qu'à dire que ce qu'on ferait, ce serait aussi essayer de rendre ça un peu moins pourri en essayant de au moins faire de l'information et d'en parler et de faire que ce ne soit pas juste des trucs qui restent dans les salles des tribunaux et qui voilà, dont personne ne parle. Et donc, du coup, c'est carrément possible de nous rejoindre ou de nous contacter, de nous écrire sur notre adresse mail qui est tout à fait...
qui est celle5@riseup.net.
Voilà. On a également un compte Twitter. C'est possible de nous contacter via Twitter. Et du coup, c'est possible de... bah voilà, soit aller assister à des audiences de comparution immédiate, écrire des comptes rendus, nous les envoyer ou nous contacter pour participer à la revue. On voulait aussi dire on voulait aussi dire que le prochain numéro de Salle 5, on aimerait bien faire un peu un dossier là, comme on a fait un dossier thématique plus autour de la question du travail en prison, et du coup on est aussi à la recherche de témoignages ou de gens qui auraient des trucs à raconter sur la question du travail en prison. Du coup, c'est possible aussi de nous écrire à ce sujet-là. Et puis globalement, toujours, s'il y a des personnes qui ont envie de témoigner aussi de leur expérience face à la justice de classe et à la justice raciste et à la justice de comparution immédiate, ben, c'est possible de nous écrire. Voilà.
Ok, merci. Merci pour tout ça et pour toutes ces informations. Est-ce que vous aimeriez rajouter quelque chose, dire un dernier petit mot?
Bah, feu aux prisons.
Parfait. Et c'est une très bonne conclusion. Non, bah, en tout cas, merci
avec
beaucoup.
Pas aller de justice, voilà. Avec.
Malheureusement.
Et le bâton dedans.
Et on ne s'arrête plus. Non, mais en tout cas, merci d'être venu et d'avoir pris ce temps-là avec micro-ondes pour parler un peu de justice et d'injustice. Et on s'écoute une dernière chanson qui va être une bonne conclusion à tout ça. Ça c'était 13-12, on va la transformer en 3-12 parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Donc 3 minutes 12, donc les violences policières, est-ce que vous voulez en dire un petit mot ou on se l'écoute?
Non, mais je me souviens.
C'est un morceau collectif. On s'écoute ça.
Qui est fait tout, qui parle.
Malik Ousekine, Macomé, Amine ou Lamine. Autant d'hommes noirs ou arabes que la police assassine. Le savais-tu? Entre 1977 et 2019, c'est 676 personnes que la police tue. Derrière ces chiffres, il y a la réalité des vies volées, des familles détruites, d'une soif de justice qui peine à être étanchée. Car dans l'immense majorité des cas, les meurtriers ne seront pas inquiétés. Ils continueront à exercer en toute impunité. Servir et protéger? Non. Sévir et oppresser, tabasser les classes populaires et les personnes racisées. Tel est en vérité le cœur du métier de policier. Maintenir coûte que coûte l'ordre social raciste et bourgeois, il n'y a pas de doute, la police est faite pour ça. À ceux qui s'indignent et demandent « mais que fait la police ?», nous répondons
« 18 morts par an, qui osent encore parler de bavure et mentir aux parents ?» Quand ça fait 40 ans que ça dure, l'exception à l'état de droit, l'oppression à l'état pur. 13-12 et nous, ça veut dire que tous les keufs sont des raclures. Passe-droit systématique, qu'un problème est structurel. La police prend sous serment, la justice est sous tutelle. L'institution par définition est par nature cruelle. La police tue à tue-tête et en plus elle fait du zèle.
Une fois n'est pas coutume, cent fois c'est l'habitude. L'assitude, l'impunité nous rend taciturne. Amertume, l'état d'urgence si t'as pas de fortune. Cap dans la tribune, nique la baque au coin de ma rue. Flashball sur nos figures, manif et point d'outure. Massif sont les bavures, injustice en couverture. Steve, s'il y a des bounades, sont pas des procédures. Rémi, c'est vrai qu'il y a ta main, la police tue.
La police tue, ce n'est plus un secret pour personne. Depuis que les images circulent à travers tablettes et smartphones. Pourtant ça fait un bail, bah ouais mon vieux. Depuis le temps que la vraie racaille se cache derrière des non-lieux. Excusez-moi du peu, mais je ne fais qu'exposer les faits. Qui foutent le feu dans mes artères à m'en exploser les veines. Je dédie ces quelques vers aux familles des victimes. Lâche un gros glaire sur ces keufs qui jouent les vikings.
Devant une personne âgée ou un gamin de la tête. Regarde, il propage la guerre en tant gardien de la paix. On écrit gras, tu voudrais qu'on police nos vers. Le caractère de la police influe sur notre police de caractère. Tu dis qu'il n'y a pas que des garibous parmi tous ces types. Mais le bon flic a frappé Geneviève, va-t-il pousser Steve? Ni de Nantes, Paris, sous les tirs, ils ont fait nous des qui. Et encore pire quand tu t'appelles Naïm ou Malekou, c'est qui?
Le plus souvent, noir ou arabe de cité, dépité par les juges, leur cécité répétée. S'organiser pour la vérité nécessité. Des campagnes aux quartiers confinés, cités. Des terres, alors prend la rue et crie bien fort. Anticapitaliste, antifa, anti-port. Ensemble, on peut conjurer le mauvais sort. Du pays du dedans à celui du dehors.
Yeah, j'dis c'est que nos proies, bras. Tu kiffes tes proies, que ça veut briser nos blocs. Remixer le 17 octobre, viser le pogrom, le racisme est colossal. Police, militant, antraciste et colonial. J'parle de rôle social, peu importe qui en est des gentils. L'État les fera tirer pour protéger les nantis. Puis les fera quitter, t'espères transformer les flics. Ma naïveté m'a quitté près d'un transfo électrique.
Rien ne se perd, tout se transforme. Donc leur violence deviendront des projectiles qu'on lance fort sur leur uniforme. Unique forme de réponse, tant que la justice les soutiendra. Et on se souviendra du bruit du port lorsque le schtroumpf viendra. On trouve plein de rats en bleu qui kiffent se défouler sur les frères. Quand tout pètera, c'est le shérif qui sera bouffé par les verts. Je veux pas que mes petits poussent là où les Schmitts prennent pour des GI. Une pensée aux victimes cool, stress 12 NODJA.
Cours, et les ont dégainé les LBD. À chaque manif, j'ai la boue.
Et pour terminer cette émission, un rapide agenda pour les semaines à venir. Alors, on commence le lundi 16 mai à 17h30 avec un rassemblement en soutien au vote du conseil municipal de Grenoble pour l'accès aux piscines pour toutes. Donc, après bientôt 4 ans de lutte pour obtenir la possibilité de porter notamment des maillots couvrants dans les piscines municipales, ce règlement s'apprête à être voté au conseil municipal et donc on peut se retrouver à 17h30 à la salle de conférence de la Maison du Tourisme pour suivre en direct sur grand écran le vote du conseil municipal de ce règlement. Ensuite, plusieurs événements. Tout d'abord, un colloque « Faut-il continuer la recherche scientifique ?» qui se posera deux questions. Déjà, quelles sont les conditions qui pèsent sur les chercheurs et limitent leur marge de manœuvre? Et plus largement, est-ce que l'expansion illimitée de la connaissance scientifique est une chose souhaitable? Est-ce que tout doit être et peut être connu? Donc, dans le cadre de cette réflexion, plusieurs événements qui vont avoir lieu à différents endroits et notamment sur le campus. Et ça se déroule du lundi 16 mai au mercredi 18 mai. Ensuite, un autre événement qui va se dérouler les vendredis 20 mai et les samedis 21 mai, Reprendre la terre aux machines, organisé par notamment l'Atelier Paysan et un certain nombre de collectifs grenoblois. Sur ces deux jours, il va y avoir des ateliers, des rencontres, des débats, projections, etc. Donc, deux jours de rencontres pour pouvoir débattre et échanger sur les questions de paysannerie, de réappropriation des enjeux d'alimentation et de réappropriation des terres. Le vendredi 20 mai à 19h à la BAF, il y a une soirée d'échange et de rencontres autour de la frontière franco-italienne pour pouvoir échanger autour de différents parcours de lutte à la frontière franco-italienne, transmettre des infos sur la situation et pouvoir essayer de tisser un réseau, de renforcer la lutte autour de cette frontière. Et enfin, du 27 au 29 mai, aura lieu sur le plateau des Glières un forum des résistants d'aujourd'hui qui est organisé par le groupe citoyen résistant d'hier et d'aujourd'hui avec plein d'événements sur des thématiques très larges des différents types de résistance d'aujourd'hui, que ce soit sur des questions de la santé publique, sur les questions de l'environnement, de la surveillance de masse. Donc voilà, plein de rencontres programmées pendant ces 3 jours avec aussi de la projection de films en présence de réalisateurs sur les différentes luttes d'aujourd'hui et de demain. Donc ça se passe du 27 au 29 mai sur le plateau des Glières.
Micro-ondes.
une émission qui vous tient
à contre-courant le samedi
de 13h à 14h.
On vous parle de sujets brûlants,
mais c'est pas du réchauffé.
Une émission qui s'attaque
au racisme,
aux frontières
et aux injustices sociales.
À l'intérieur, pas de l'alu, que de la lutte.
En direct sur Radio Campus
90.8
FM ou en streaming sur campusgrenoble.org.
Et en podcast sur le-tami.info
ou sur le site de Radio Campus Grenoble.